Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce quatrième épisode, nous abordons les enjeux de développement de l'électricité en Afrique. Cet épisode est diffusé en deux parties. Dans la première partie de cet épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quels sont les défis majeurs pour le secteur de l'électricité en Afrique et quelles sont les potentielles solutions pour relever ces défis? Comment est généralement organisé le secteur de l'électricité? Quelles sont les principales fonctions qu'on y retrouve? Peut-on réellement parler de bonnes pratiques quand il s'agit d'organiser le secteur de l'électricité? Quel est le potentiel de participation du secteur privé dans la chaîne de valeur du secteur de l'électricité? Et quels sont les enjeux liés à cette participation? Dans la deuxième partie de cet entretien, nous apporterons des réponses aux questions suivantes. Quels sont quelques exemples de réformes réussies du secteur de l'électricité dans le continent? Quels sont les changements majeurs qui ont été apportés? Quels sont les enjeux climatiques pour le secteur de l'électricité en Afrique? Et quelles pourraient être les opportunités de solutions pour faire face à ces enjeux? Quelles sont les chances de l'Afrique pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7, notamment en termes d'accès universel? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Clara Kaiser-Brill, la directrice de l'unité Power ou unité électricité au sein de CPCS. Clara est ingénieure en génie électrique avec une vingtaine d'années d'expérience dans plusieurs continents, notamment l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Son expertise couvre l'ensemble du cycle de vie des projets dans le secteur, y compris les réformes pour organiser le secteur, les études de préfaisabilité et de faisabilité, ainsi que l'évaluation de projets. En tant que chef de mission ou chef d'équipe, Clara a dirigé avec succès des équipes internationales comptant jusqu'à 30 personnes et géré des contrats d'une valeur de plus de 20 millions de dollars. Bonjour Clara.
Bonjour Mamoudou.
Merci encore de nous rejoindre dans cet épisode qui est une introduction, on va dire, au secteur de l'électricité. Nous avons reçu Jean-François Arsenault il y a un peu plus d'un mois qui nous avait présenté CPCS, un cabinet de conseil spécialisé dans les infrastructures de transport d'énergie et les partenariats publics-privés. Vous dirigez l'unité énergie au sein de CPCS. Pourriez-vous nous présenter brièvement cette unité?
Merci. Alors oui, l'unité Power, en bon français, au sein de CPCS, c'est une équipe de spécialistes du secteur de l'électricité, principalement des économistes et des ingénieurs, avec des profils variés sur les énergies plus traditionnelles, sur les énergies renouvelables, sur les grosses infrastructures de production et de transport d'électricité raccordées au réseau, mais aussi des expériences sur l'électrification rurale et les mini-réseaux, les solutions plus décentralisées. Et nous intervenons à travers le continent africain, on est présent vraiment un petit peu partout, sur des questions de politique et de stratégie pour le secteur, donc souvent directement en travaillant avec les ministères en charge du secteur électrique. On intervient sur le développement du cadre légal et de la réglementation pour encadrer le secteur électrique et pour l'amener à évoluer vers souvent plus de participation du secteur privé, plus de promotion des énergies renouvelables. Nous intervenons aussi sur des projets bien spécifiques, souvent en tant que conseil en transaction auprès des gouvernements. Donc lorsque les gouvernements négocient des gros contrats pour la participation du secteur privé sur la construction d'infrastructures, ces contrats doivent être équilibrés, doivent respecter à la fois les intérêts du secteur privé, mais aussi les intérêts du public. Et donc nous accompagnons les gouvernements pour négocier ces contrats. Voilà, et puis on est aussi assez présent avec certains grands bailleurs de fonds. On travaille avec la Banque africaine de développement, avec la GIZ, avec le Millennium Challenge Corporation, avec la Banque mondiale à travers le continent africain.
Merci beaucoup Clara pour cette introduction. Ça montre clairement que CPCS offre une large palette d'expertise quand il s'agit du secteur de l'électricité. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez beaucoup d'expérience dans le secteur de l'électricité, notamment en Afrique. De par votre expérience, quels sont les grands défis aujourd'hui qu'on peut identifier pour le secteur de l'électricité dans le continent? Et quelles sont les potentielles solutions pour relever ces défis?
Alors, c'est effectivement une énorme question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Et c'est important de garder en tête aussi que quand on parle de l'Afrique, en fait, on parle de beaucoup de pays qui ont des réalités diverses et qui ont des défis qui peuvent être très différents. Mais si on prend un peu de recul et qu'on essaye d'identifier les grandes tendances, la réalité vécue par la population sur le continent africain, c'est d'abord un faible taux d'électrification. D'après les estimations, il y a entre 500 et 600 millions de personnes sur le continent qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, beaucoup de variabilité, hein. Dans le nord de l'Afrique, dans le Maghreb, on a en général des taux d'électrification qui sont très élevés. C'est également le cas en Afrique du Sud. On a certains pays aussi qui font des énormes progrès très rapides en termes d'électrification. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Rwanda, Kenya aussi a progressé très très vite. Mais certains pays, au contraire, restent très peu électrifiés aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ont l'accès à l'électricité, on croit souvent des problèmes de qualité. Beaucoup de coupures de courant, planifiées ou non planifiées. On parle souvent de délestage. Quand il n'y a pas assez de capacité de production d'électricité pour faire face à la demande, on est obligé de mettre certains clients dans le noir. Quand on a du courant, il peut être de mauvaise qualité, avec des fluctuations de tension qui peuvent être problématiques pour certains équipements. Et puis, beaucoup de clients des sociétés nationales d'électricité ont des relations commerciales avec leur société d'électricité qui sont pas forcément optimales. On peut avoir des longs délais pour obtenir un branchement, par exemple. On peut avoir des agences commerciales qui sont situées loin, qui sont pas pratiques d'accès, qui n'offrent pas des services dématérialisés sur Internet. Et puis, un autre aspect, encore une fois, vis-à-vis du consommateur, c'est que l'électricité dans beaucoup de pays africains est chère. Les prix pour les consommateurs sont parfois très élevés, jusqu'à 2 ou 3 fois plus élevés que dans des pays développés. Dans certains pays africains, la population est souvent une population pauvre qui a peu de moyens, paye 40 centimes de dollars US par kilowattheure, ou voire 50 centimes dans certains cas, alors que dans beaucoup de pays industrialisés, on est plutôt autour de 15 centimes. Donc voilà, on se retrouve avec une population qui a peu accès, qui quand elle a accès, la qualité n'est pas forcément bonne, et souvent des prix qui sont extrêmement élevés et incompatibles avec les faibles moyens de la population. Et puis ces problèmes qui sont vécus par la population, ben, ils sont aussi vécus par les entreprises, par les industries, par l'économie en général. Donc les difficultés liées au secteur de l'électricité, c'est des problèmes socio-économiques et c'est aussi des entraves au développement économique et industriel.
C'est intéressant et en même temps, on voit clairement effectivement tout ça là, comment ça peut impacter le développement économique et social et surtout effectivement la performance des entreprises. Mais j'ai envie un peu de pousser quelque part, bien que je sais que la question peut être très difficile à répondre, mais pourquoi cette situation-là? Pourquoi on en est là actuellement?
Alors là, pareil, c'est une question complexe à laquelle on peut répondre de différentes manières. Mais si on regarde, c'est quoi finalement le secteur de l'électricité? C'est de la production d'électricité dans des centrales électriques, qui est ensuite transportée dans des lignes à haute tension et puis distribuée dans des réseaux moyennes et basses tensions au niveau des villes. Et ce qu'on voit, encore une fois, avec beaucoup de contrastes d'un pays à l'autre, mais les problématiques récurrentes qu'on peut trouver tout au long de cette chaîne d'approvisionnement, c'est d'abord pas assez de capacité de production, donc pas assez de centrales électriques. Pourquoi ça? Parce que beaucoup de pays africains font face à des contraintes à l'investissement. Il n'y a pas assez d'argent public pour investir, et puis il y a des conditions d'un environnement qui n'est pas toujours propice à l'investissement privé. Du coup, ça manque d'investissement pour construire de nouvelles centrales électriques. Et puis, beaucoup de pays africains sont en forte croissance à la fois démographique et économique. Donc, il faudrait pouvoir investir très fréquemment pour suivre la demande. On a certains pays où la demande va doubler en 15 ans, en 20 ans. Donc, il faut vraiment un rythme d'investissement très soutenu. Et puis, beaucoup de centrales qui existent aujourd'hui utilisent des énergies fossiles qui sont souvent importées et donc qui sont chères. Et puis là, on voit particulièrement en ce moment, très exposées aux fluctuations de prix sur les marchés internationaux. Alors, face à ça, on peut esquisser quelques solutions. Aucune d'elles n'est facile ni rapide à mettre en œuvre, mais on voit que ça commence à se développer. Donc, il y a les ressources énergétiques locales, beaucoup de solaire dans les pays du Sahel et certains pays de la région qui sont assez en pointe dans le développement de leurs ressources solaires. C'est le cas au Sénégal, où il y a pas mal de nouvelles centrales solaires qui ont été construites récemment. Dans les pays d'Afrique équatoriale, il y a une forte ressource en hydroélectricité qui est dans certains pays très peu développée. Le meilleur exemple, c'est la République démocratique du Congo, qui a un potentiel gigantesque pour l'hydroélectricité, notamment avec le site de Inga. Et ce potentiel reste à développer. En Afrique de l'Est, il y a la géothermie. Tous les pays qui sont le long du Rift, le Kenya, le Rwanda, qui peuvent développer ce potentiel de géothermie. Et puis il y a le gaz naturel aussi. Plusieurs pays africains ont découvert d'importantes réserves de gaz naturel, au Sénégal, au Mozambique, pour en citer deux. Et ce gaz naturel peut évidemment être une source de revenus quand il est exporté, mais peut aussi servir à produire de l'électricité avec une ressource domestique, donc de mieux maîtriser les quantités, de mieux maîtriser les prix.
Alors, ceci concerne la partie production de la chaîne de valeur. Que peut-on dire du transport?
Pour transporter l'électricité depuis les sites de production jusqu'aux grands centres de consommation d'électricité, donc souvent les grandes villes, il faut construire des lignes à haute tension. Et pareil, ces lignes à haute tension, ça représente un coût. C'est un investissement qui est important. Souvent, il y a des problèmes de sous-investissement dans les lignes électriques, et c'est particulièrement flagrant pour tout ce qui concerne les interconnexions régionales. Parce que pour mieux développer la ressource et pour mieux assurer la résilience du système électrique, c'est très bénéfique d'avoir des interconnexions avec les voisins. C'est beaucoup ce qui se passe en Europe, par exemple. En Europe, les pays sont tous interconnectés. Du coup, quand le Danemark, par exemple, qui est un gros producteur éolien, a un excédent de production éolienne, il peut l'envoyer à ses voisins. La Norvège, qui a d'énormes ressources hydroélectriques, peut également l'exporter vers le reste du continent. Et puis, quand un pays fait face à une grosse panne sur une centrale électrique, il peut importer en urgence de ses voisins pour permettre de stabiliser le réseau. En Afrique, il y a beaucoup moins d'interconnexions et entre pays. Et donc, le développement des interconnexions régionales, c'est vraiment aussi une piste pour améliorer les choses, pour mieux développer les ressources et pour rendre les réseaux plus résilients. Et il y a des organisations en Afrique de l'Ouest, on peut citer l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, le WAP, le pool énergétique d'Afrique de l'Ouest, donc qui sont des organisations qui œuvrent pour développer les interconnexions régionales.
Merci Clara, on vient d'aborder les deux premiers maillons de la chaîne, à savoir la production et le transport. Qu'en est-il de la distribution?
Pour la distribution, effectivement, le dernier maillon de cette chaîne entre la production d'électricité puis le consommateur, on a souvent des gros problèmes de vétusté des réseaux de distribution, donc pareil pour des problématiques de manque d'investissement, de manque de moyens aussi pour assurer la maintenance. Ce qu'on voit souvent à la fois dans les grandes villes et puis dans les campagnes, c'est que le réseau de distribution a été construit il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis la population a grandi. Elle s'est enrichie aussi souvent, et heureusement, dans certaines villes. Donc les besoins augmentent et on se retrouve contraint par la capacité des lignes de distribution. Si on imagine qu'une ligne de distribution, c'est un peu comme un tuyau dans lequel on transporte l'électricité, le tuyau, il a été dimensionné pour 20 personnes il y a 15 ans, puis aujourd'hui il y a 40, il y a 50 personnes qui ont besoin d'être alimentées par le même tuyau. Le tuyau est trop petit. Et donc on a des goulets d'étranglement comme ça sur le réseau de distribution, qui peuvent ensuite se transcrire par des pannes, par des délestages. Donc on met dans le noir certaines parties du réseau parce que le réseau n'est pas assez solide pour faire transiter toute l'énergie dont on a besoin. Et puis il y a aussi la question des pertes sur le réseau de distribution. Quand, encore une fois pour reprendre l'analogie, les tuyaux sont trop petits, on perd de l'énergie. Donc on a 100 kWh en entrée du réseau et il y a seulement 80 qui arrivent chez les clients parce qu'il y a des pertes, ce qu'on appelle des pertes techniques sur le réseau.
On peut dire clairement que les enjeux sont majeurs, mais certainement pas insurmontables, et vous avez dégagé quelques pistes de solutions. J'ai envie de dire qu'avoir un cadre adapté serait certainement déterminant. Et en vous écoutant balayer la chaîne de valeur en parlant des enjeux, j'ai envie de vous demander comment est généralement organisé le secteur de l'électricité? Quelles sont les principales fonctions qu'on y retrouve?
Alors, on a parlé de production, transport et distribution, qui est la manière traditionnelle d'envisager le secteur de l'électricité. À ces trois fonctions qui sont physiques, générer les kilowattheures et puis ensuite les transmettre jusqu'au client, se rajoute une fonction commerciale de vente qui peut parfois être distinguée. Donc, il y a la distribution, c'est l'acte physique d'amener l'électricité jusqu'au client. Et puis, il y a la vente qui est l'acte commercial de leur facturer cette énergie. Donc, ça, c'est l'organisation traditionnelle du secteur qui est un petit peu en train d'être remise en cause parce que, avec par exemple les panneaux solaires, les consommateurs se mettent de plus en plus à produire eux-mêmes leur électricité. Et puis, c'est aussi possible avec ce qu'on appelle les énergies renouvelables décentralisées, donc des petites fermes solaires, des petites fermes éoliennes, des petites centrales hydroélectriques, de produire au plus près de la population. Et donc, au lieu de passer par le transport, par exemple, eh ben, on produit directement proche de la ville, directement sur le réseau de distribution. On a aussi le fait, alors pas encore beaucoup en Afrique, mais on peut s'attendre à voir ça se développer, qu'il y a ce qu'on appelle les systèmes de gestion de la demande, où les consommateurs peuvent eux-mêmes décider de se déconnecter à certains moments lorsqu'il n'y a pas assez d'électricité sur le réseau. Et donc, au lieu d'une relation en un seul sens de production, transport, distribution, et puis on vend au client qui est passif, on arrive de plus en plus dans des relations dans les deux sens, où les clients, ils peuvent produire de l'électricité avec leurs panneaux solaires, l'injecter sur le réseau, ils peuvent décider à quel moment ils vont prendre de l'énergie du réseau, puis à quel moment ils vont se déconnecter, par exemple en répondant à des signaux de prix. Donc cette organisation traditionnelle est en train d'évoluer, mais elle peut rester pertinente pour comprendre les grandes fonctions du secteur. Et pour schématiser, il y a deux façons d'organiser ces grandes fonctions, production, transport, distribution, vente. Soit on a une seule entreprise publique, contrôlée par l'État, qui fait tout, et c'était l'organisation dominante un peu partout dans le monde, y compris en Afrique, jusqu'à il y a 10-20 ans. Il en reste encore beaucoup de traces, avec dans la plupart des pays africains, une société nationale qui est encore présente sur l'intégralité de la chaîne. C'est le cas au Sénégal avec la Sénélec, qui produit, transporte et distribue l'électricité. C'est le cas en France, où EDF, bon, qui a subi beaucoup de transformations, mais EDF reste un acteur majeur à la fois au niveau de la production et de la distribution et de la vente d'électricité, et puis un petit peu avec le transport, puisqu'ils sont... ils restent propriétaires d'une partie de RTE, le réseau de transport. Donc ça, c'est à un bout du paysage, on va dire, une grosse société qu'on appelle verticalement intégrée, puisqu'elle combine toutes les fonctions dans une seule organisation, généralement publique. Et puis de l'autre côté, on peut avoir un secteur très libéralisé, ouvert à la compétition et à l'investissement privé, avec une multiplicité d'acteurs. Et dans ce cas-là, l'État ne garde qu'un rôle minimal de supervision et d'arbitrage. C'est un modèle qui est complètement libéralisé, qui est moins répandu. C'est le cas dans certains États américains. Mais en fait, la plupart des pays aujourd'hui se trouvent entre les deux. On n'a plus ce gros géant intégré qui fait tout et qui est entièrement contrôlé par l'État. On n'est pas complètement libéralisé, il reste de la présence de sociétés publiques sur tout ou partie de la chaîne, mais on fait rentrer beaucoup d'acteurs privés, notamment au niveau de la production, de plus en plus au niveau de la distribution et ou de la vente. Et puis, ça commence aussi à voir le jour d'avoir de la participation privée au niveau du transport d'électricité. Le tout étant nécessairement très bien encadré par les autorités de régulation.
Clara, vous avez parlé des modèles traditionnels qui sont en évolution. Et j'ai envie un peu de m'arrêter là. Parce que vous savez très bien qu'il y a cette tendance-là à vouloir, on va dire, prendre des modèles qui sont occidentaux des fois, à les transférer directement tels quels en Afrique. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler vraiment de bonnes pratiques internationales quand il s'agit d'organiser le secteur de l'électricité ?
Alors, comme je le disais, en fait, il y a une multiplicité d'organisations possibles, et puis chaque pays a aussi le poids de son histoire. Qu'il faut respecter. Donc, il n'y a pas une bonne façon de faire qu'il faudrait faire partout. On a pas mal reproché à certaines institutions internationales et un petit peu d'avoir cherché à un moment d'imposer la privatisation des entreprises publiques partout, y compris dans le secteur de l'électricité. On est pas mal revenu de ça aujourd'hui. Il n'y a pas une organisation qui est bonne partout. La privatisation, des fois ça marche, puis des fois ça marche moins bien. Donc on peut dire qu'il y a quelques principes directeurs quand même qui permettent une meilleure performance, mais chacun de ces principes a besoin d'être adapté au contexte particulier du pays, et puis à son histoire, aux structures qu'il a héritées du passé. Alors, Après, un premier point, c'est qu'il y a certains segments de cette chaîne qui se prêtent bien à l'investissement privé, puis d'autres qui s'y prêtent moins bien. Celui qui s'y prête le mieux et sur lequel l'investissement privé est le plus présent sur le continent africain, c'est la production. Parce qu'à condition de bien l'encadrer, la production privée d'électricité, ça peut être gagnant-gagnant. On ouvre un secteur économique pour des acteurs privés qui vont pouvoir faire des profits, mais en même temps, quand c'est bien encadré, ça permet souvent de produire l'électricité à des coûts plus faibles que quand c'est fait dans le cadre des monopoles publics verticalement intégrés dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que quand une façon de faire qui est de plus en plus répandue, c'est de dire okay, tel pays a besoin de construire des nouvelles capacités de production, et ben on va lancer un appel d'offres auquel différents acteurs privés vont pouvoir répondre, et on va faire jouer la compétition pour obtenir le kilowattheure le moins cher. Donc on lance un appel d'offres, par exemple, pour de l'énergie solaire, et puis on va autoriser le moins 10 ans, donc celui qui va nous offrir le meilleur prix du kilowattheure, on va l'autoriser à construire sa centrale et à vendre à un prix garanti pour une certaine période de temps qui va lui permettre de rentabiliser son investissement. C'est par exemple ce qui a été fait au Sénégal avec le mécanisme Scaling Solar, qui a permis d'arriver à des prix du kilowattheure solaire extrêmement intéressants, de l'ordre de 4 ou 5 centimes de dollars US. Donc ce mécanisme-là, de mise en concurrence du secteur privé pour acheter un kilowattheure moins cher, il fonctionne bien et il est de plus en plus utilisé à travers le continent africain. Bon, il y a malheureusement des contre-exemples où ça se passe moins bien. Deux gros types de problèmes qu'on peut avoir. D'abord, un problème de coordination. Comme on le disait tout à l'heure, la demande dans de nombreux pays africains, elle augmente rapidement. Et du coup, il faut construire des nouvelles capacités au bon rythme. Mais ce bon rythme, il est difficile à avoir. Et certains pays se sont retrouvés à signer trop de contrats avec trop de producteurs d'électricité. Et donc, ils doivent honorer ces contrats, donc ils doivent payer. Mais pour des kilowattheures dont ils n'ont pas besoin, parce que la demande, elle n'a pas évolué exactement au rythme qu'on anticipait. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle le Ghana, par exemple, fait face aujourd'hui. Et puis, il y a un autre type de problème, qui est celui des contrats qui ont été mal négociés et où certains États se retrouvent à payer beaucoup trop cher pour du kilowattheure parce qu'on n'a pas fait jouer la concurrence, parce que malheureusement il y a eu aussi des cas de corruption et donc des sociétés d'électricité qui se retrouvent avec des factures exorbitantes parce qu'elles sont pieds et poings liés par des contrats mal négociés qui ne sont pas dans leur intérêt. Donc la production d'électricité privée, ça peut être gagnant-gagnant, ça peut être un vrai facteur de progrès, mais en même temps ça doit être bien encadré parce qu'il peut y avoir des écueils. De l'autre côté de la chaîne, c'est beaucoup plus difficile souvent de mobiliser l'investissement privé pour développer l'électrification rurale. Pourquoi ? Parce que l'électrification rurale, c'est plus difficile d'en faire quelque chose de rentable. On a une multiplicité de clients qui sont pas forcément très solvables, qui peuvent par exemple avoir des fluctuations saisonnières dans leur capacité à payer pour l'électricité. En période de soudure, on n'a plus d'argent pour payer l'électricité, donc on ne paye plus. Donc un investisseur privé qui irait vendre de l'électricité en zone rurale, il peut faire face comme ça à ces fluctuations. En plus, en zone rurale, c'est des petits clients qui vont consommer très peu chacun. Et par contre, c'est des gros investissements parce qu'ils sont loin, ils sont dispersés. Donc, il faut des longues lignes électriques pour leur apporter l'électricité. Donc, typiquement, autant la production d'électricité privée, ça se développe pas mal et c'est de plus en plus présent dans la majorité des pays africains aujourd'hui ou en cours de développement. Autant l'investissement privé pour l'électrification rurale, pour développer les réseaux électriques en zone rurale, c'est plus difficile d'arriver à ce partenariat gagnant-gagnant où à la fois c'est bénéfique pour l'investisseur et bénéfique pour les populations. Il y a des exemples où ça fonctionne, mais c'est moins répandu. Donc un point important à garder en tête, c'est que quand on permet à des joueurs privés d'entrer sur le marché, il faut un arbitre. Parce que le secteur privé, son objectif, c'est de maximiser ses profits. Donc il faut avoir un arbitre neutre qui va préserver l'intérêt du public, donc qui va encadrer l'action des privés de manière à ce qu'ils fassent des profits raisonnables, mais pas excessifs. Un très bon exemple de ça, c'est la régulation tarifaire. Quand on a le secteur privé qui est autorisé à vendre l'électricité directement aux consommateurs, les consommateurs ne peuvent pas faire un appel d'offres, comme on disait tout à l'heure, où on fait un appel d'offres puis on prend le moins 10 ans, celui qui offre le kilowattheure le moins cher. Les consommateurs, quand ils vont au marché acheter des tomates, ils peuvent choisir d'acheter au moins cher. Mais pour l'électricité, souvent, il y a un seul réseau de distribution, donc ils sont pieds et poings liés avec un distributeur. Et quand ce distributeur est privé, il faut encadrer le tarif qu'il a le droit de charger à ses consommateurs, de manière à ce que ce tarif il soit juste. Et ça, c'est le rôle d'une entité qu'on appelle le régulateur, qui est une entité publique et qui doit, typiquement dans le cas des tarifs, vérifier que les tarifs permettent à l'opérateur, qu'il soit public ou privé, de rentrer dans ses coûts. Parce que s'il ne peut pas rentrer dans ses coûts, ben il va faire des pertes. S'il fait des pertes, il ne pourra plus acheter de fuel pour faire tourner ses centrales. Il ne pourra plus acheter des pièces de rechange quand le réseau sera en difficulté. Donc c'est important que le tarif reflète vraiment les coûts. Mais c'est important aussi d'encadrer les profits, surtout quand il s'agit d'opérateurs privés. Et on a malheureusement certains cas dans certains pays africains où les opérateurs privés sont peu encadrés et où ils chargent des prix absolument exorbitants. J'ai vu dans certaines zones où le secteur de l'électricité est très peu encadré, des prix pouvant aller jusqu'à 1 $ US du kilowattheure, ce qui est un prix absolument exorbitant à charger à la population. Ça, c'est quand les tarifs sont pas ou peu régulés dans certains cas particuliers. Donc la régulation, c'est vraiment une fonction clé du secteur.
J'aimerais bien m'arrêter sur cette idée que les tarifs reflètent, on va dire, les coûts. Quand on dit ça, bon, c'est le plus souvent qu'il y a des subventions au niveau, en tout cas, de l'Afrique. Est-ce qu'on s'attend à ce que le client final, le consommateur, paye ces tarifs-là ou, voilà, par ça, on entend juste qu'il faudrait que le producteur s'y retrouve?
Alors ça, c'est vraiment une question politique auxquelles différents pays répondent différemment. Certains pays font exactement comme vous venez de dire. Le producteur doit s'y retrouver et pour qu'il s'y retrouve, on décide que le consommateur doit payer une partie des coûts via le tarif, via sa facture mensuelle. Et puis c'est l'État qui met la main à la poche pour payer le reste. Ça peut fonctionner. Quand l'État a les moyens de le faire et quand c'est bien encadré, ça peut fonctionner. D'autres pays font différemment. D'autres pays décident que c'est au consommateur de payer. Et donc on a des tarifs qui reflètent entièrement les coûts qui peuvent être plus élevé, et on peut décider aussi que certains consommateurs vont subventionner d'autres catégories de consommateurs. Par exemple, s'il n'y a pas de subvention publique disponible, par choix ou par contrainte sur l'argent public, on peut avoir ce qu'on appelle un tarif social, où les consommateurs les plus pauvres vont payer nettement moins cher, et puis on compte sur les consommateurs un peu plus riches ou sur les industriels pour subventionner d'une certaine manière les consommateurs les plus pauvres. Il y a beaucoup de façons de faire. Ce qu'on voit souvent, c'est d'avoir la première tranche de consommation calée sur ce qu'on s'attend de voir en termes de besoins pour une famille moins favorisée, et où ils vont payer leur kilowattheure un prix préférentiel. Par exemple, les 30 premiers kilowattheures ou les 50 premiers kilowattheures sont nettement moins chers pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à l'électricité. Et puis, il y a une dernière façon de faire, je ne sais pas si on la rencontre sur le continent africain, mais on la rencontre par exemple en France, c'est de dire, bon, l'électricité, elle est vendue à son prix, au même prix pour tout le monde, mais derrière, on a un chèque énergie, c'est-à-dire une subvention qui est versée directement aux ménages les plus vulnérables pour leur permettre de faire face à leurs dépenses énergétiques. Donc effectivement, il y a plein de façons de trouver le bon équilibre entre avoir suffisamment d'argent qui rentre dans les caisses de l'opérateur pour qu'il puisse faire correctement son travail et préserver les intérêts des consommateurs les plus pauvres ou parfois les intérêts des industriels aussi. On peut décider que pour attirer les industriels, pour leur permettre de se développer, on va leur vendre l'électricité très peu cher. Ça peut être un choix politique aussi. Et c'est vraiment, encore une fois, des choix politiques qui doivent être ensuite en cohérence avec la politique économique et sociale du gouvernement. Et le régulateur, derrière, son rôle, c'est d'appliquer ça.
Tout à fait. Donc, j'entends bien effectivement qu'il n'y a pas de solution, on va dire, qui peut être transférée partout. Il faudrait trouver une solution adaptée aux réalités socio-économiques de chaque pays. Et peut-être juste pour finir cette partie organisation, qu'est-ce que vous direz un peu de la participation du secteur privé dans la partie, on va dire, distribution et vente?
Alors c'est une question complexe et on a des exemples où ça fonctionne bien puis des exemples où ça fonctionne beaucoup moins bien. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle de distribution, dans beaucoup de pays africains, le réseau de distribution, il faut encore le faire grandir parce qu'on est sur des populations en forte croissance et puis souvent aussi sur des niveaux de vie qui augmentent et donc des niveaux de consommation d'électricité qui augmentent. Ça veut dire que l'acteur en charge de la distribution, il doit investir dans son réseau. Et investir dans son réseau, si on le laisse juste appliquer une logique de secteur privé, il va investir là où c'est rentable. Donc dans les quartiers densément peuplés et dans les quartiers les plus riches, là où on a les plus gros consommateurs. Donc déjà, si on a un acteur privé qui est en charge de la distribution, il faut qu'il soit tenu par le régulateur ou par l'État à investir non seulement là où c'est rentable pour lui, mais aussi dans les zones moins favorisées, que ce soit en zone rurale ou bien dans les zones périurbaines, dans les quartiers peut-être plus pauvres où on s'attend à ce que les consommateurs consomment moins. Donc il faut qu'il y ait ces incitations en place pour être sûr que les investissements ils vont aller au bon endroit pour développer de façon égale et pas seulement se concentrer sur les meilleurs clients, entre guillemets. Et puis un autre aspect avec quand on fait rentrer des acteurs privés, ça va être l'incitation à la performance. Parce qu'on disait que les tarifs doivent refléter les coûts ou être compensés par des subventions. Mais c'est quoi le coût juste, en fait ? Si on laisse l'acteur privé ou public juste faire la liste de ses coûts et puis dire au régulateur « Ok, maintenant j'ai le droit de rembourser ces coûts-là grâce aux tarifs ou à des subventions », on perd de vue un peu l'idée de performance. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Quand il y a un acteur privé, mais ça peut s'appliquer aussi à un acteur public, il faut qu'on ait des indicateurs de performance ou alors ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire une comparaison avec d'autres opérateurs ailleurs, pour dire « Ok, on va te permettre de rentrer dans tes coûts, mais il faut que tes coûts ils soient optimisés. » Donc, il faut réduire les pertes. On parlait tout à l'heure de pertes techniques quand les réseaux sont mal entretenus et sous-dimensionnés face à une demande qui a augmenté. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les pertes non techniques, c'est-à-dire de l'électricité qui est injecté dans le réseau, qui est consommé, mais qui n'est pas payé. Et ces pertes non techniques, elles peuvent venir de vols d'électricité, de gens qui se raccordent un peu en mode pirate. Ça peut venir aussi de gens qui vont jouer avec leur compteur pour sous-compter et donc payer moins. Mais ça peut être aussi la corruption des releveurs de compteurs qui vont accepter un petit pourboire pour baisser la facture. Ça peut être des inefficacités au niveau du système de facturation. Juste un système de facturation qui fonctionne pas bien et donc on facture pas tout le monde ou on facture pas suffisamment régulièrement. Il y a beaucoup de raisons qui font que l'électricité peut être consommée mais pas payée et donc il faut que l'acteur ait une incitation à la performance là-dessus. Parce que s'il a juste le droit de faire passer ses coûts dans la facture au final, il n'a pas cette incitation de performance. Donc, que l'acteur soit public ou privé, il faut vraiment avoir en place un cadre de vérification de sa performance, d'incitation à la performance, pour être sûr qu'il fasse de son mieux, à la fois pour distribuer l'électricité au plus grand nombre, et pour le faire de façon efficace, en réduisant les coûts. On peut voir à travers l'Afrique, on a des exemples d'opérateurs privés ou publics privés qui sont performants. C'est le cas par exemple au Cameroun avec Eneo qui a un partenariat public-privé, mais on peut avoir des acteurs publics qui fonctionnent bien, par exemple au Rwanda, et puis on a des exemples d'acteurs privés où ça n'a pas fonctionné, par exemple Veolia au Gabon, il y a eu des grosses difficultés. Et ces difficultés, elles sont vraiment multifactorielles, donc c'est difficile de dire c'est la faute du privé ou c'est la faute de l'État qui a mal encadré le privé ou qui lui a pas donné les moyens de sa réussite. C'est vraiment assez, assez complexe.
Ceci met fin à la première partie de cet épisode. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie de cet entretien, toujours avec notre invitée Clara Kaiser-Brill, la directrice de l'unité Power au sein de CPCS. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructures et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.